Et bonjour à vous Marc Potvin.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Lui qui minimisait l'importance du coronavirus, le voilà hospitalisé après sa contamination. Donald Trump se veut toutefois rassurant. « Je pense que je vais bien », explique-t-il dans une vidéo. Nous faisons le point dans un instant avec notre correspondant à Washington.
Une nouvelle tentative d'Emmanuel Macron de faire taire les armes au Haut-Karabakh. Le président français redemande un cessez-le-feu à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. Hier, les combats ont gagné en intensité. Nous serons sur place dans ce journal.
Les restaurateurs parisiens redoutent que le pire pour eux ne se produise à nouveau une fermeture, comme au temps du confinement. Leurs craintes sont d'autant plus fortes que le gouvernement s'apprête à fermer les bars dans la capitale.
Face à l'aggravation de la situation sanitaire, les personnels soignants de l'AP-HP vont-ils devoir sacrifier leur congé ? L'option est envisagée dans Interne à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Nous y reviendrons.
Et puis le fonds festival de 10 millions d'euros prolongé l'an prochain, avec une rallonge supplémentaire de 5 millions d'euros, annonce de la ministre de la Culture. Hier, nous verrons que certains festivals demandent que le chômage partiel soit prolongé jusqu'à une reprise complète de l'activité. Dans la seconde partie des matins du samedi, Caroline Brouet.
Nous parlerons de la pauvreté avec la secrétaire générale du Secours populaire français, Henriette Steinberg.
L'homme le plus puissant au monde est donc ce matin à l'hôpital. Donald Trump, 74 ans, est pris en charge dans un établissement militaire de la banlieue de Washington après son test positif au Covid-19. Grégory Phillips, l'entourage du président des États-Unis, se veut rassurant. Selon lui, Trump ressent de légers symptômes de la maladie et cette hospitalisation a été décidée par mesure de précaution.
Hier, à 18h16, heure de Washington, Donald Trump descend sur la pelouse sud de la Maison-Blanche et embarque à bord de son hélicoptère Marine One. Destination, l'hôpital Walter Reed à Bethesda, dans la banlieue chic de Washington. C'est l'hôpital militaire qui, notamment, accueille les présidents et leurs familles. Le Washington Post croit savoir que la décision de ce départ à l'hôpital a été prise un peu plus tôt dans l'après-midi parce que l'état de santé du président se détériorait et qu'il valait mieux qu'on le voie partir relativement en forme et debout plutôt qu'affaibli. Quelques minutes plus tôt, Donald Trump a enregistré cette courte vidéo dans laquelle il remercie tout le monde pour les messages de soutien et où il dit « Je pense que je vais très bien ». Tard hier soir, le médecin personnel du président écrivait que Donald Trump n'a pas besoin d'oxygène supplémentaire, qu'il a entamé un traitement au remdesivir, un antiviral, et qu'il se repose. Enfin, on commence à comprendre comment le virus a pu pénétrer au sein de la Maison-Blanche. Samedi dernier, une cérémonie était organisée dans la roseraie pour la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Les invités étaient en extérieur, mais sans masque ni distanciation sociale. Au moins 7 participants ont été testés positifs, dont la première dame et l'ex-conseillère du président, Kellyanne Conway.
Grégory Phillips, c'est dans Le Monde, dans le viseur sur franceculture.fr. Vous retrouvez entre autres cette vidéo de Donald Trump devant sa cheminée qui revient sur son état de santé. La France insiste auprès de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Une fois de plus, elle les appelle à déclarer un cessez-le-feu au Haut-Karabakh. Les combats ont repris il y a près d'une semaine dans cette région en majorité peuplée d'Arméniens. Elle a fait sécession de l'Azerbaïdjan, entraînant une guerre au début des années 1990. Hier, Claude Brouillot, les combats se sont intensifiés.
Arthur, le chauffeur arménien du minibus, a stoppé son véhicule à couvert derrière un talus.
Il frappe de deux côtés, oui.
Sur la route entre la capitale du Haut-Karabakh arménien et Martinker, la ville la plus au nord-est de l'enclave, les bombardements azéris hier étaient très réguliers. Le scénario se répète depuis bientôt une semaine et il fait dire à Ramzi, un retraité arménien né en Azerbaïdjan, que le conflit prend maintenant une autre tournure.
Ce ne sont pas seulement des tirs, c'est la vraie guerre qui a commencé depuis quelques jours. Il faut bien comprendre pourquoi. Ce n'est pas à cause de l'Azerbaïdjan. C'est la Turquie qui pousse derrière les Azéris pour qu'ils recommencent la guerre. Ça nous fait peur que la Turquie les aide. La Russie n'aide pas les Arméniens, alors ça nous fait peur.
En plus des bombardements sur la ligne de front, Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, a été prise pour cible hier soir à plusieurs reprises par les tirs azéris. De nouvelles frappes qui interviennent alors que le gouvernement arménien s'est dit prêt à entamer des démarches pour établir un cessez-le-feu. Un premier pas diplomatique balayé par le pouvoir azerbaïdjanais qui accentue encore sa pression sur le terrain militaire.
Claude Brouillot, envoyé spécial de France Culture au Haut-Karabakh.
La maire de Paris n'est pas favorable à une fermeture des restaurants, mais elle l'appliquera si elle doit entrer en vigueur.
Anne Hidalgo le déclare dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. À ce stade, ce sont surtout les bars qui sont dans le collimateur de l'exécutif. Ils se préparent à les faire fermer à partir de lundi. Au vu de la situation sanitaire, il n'empêche, Claire Checaglini, les restaurateurs ne sont pas sereins.
Se laver les mains donc avant de saisir la carte, geste indispensable pour Pascal qui gère seul cette crêperie du 1er arrondissement de Paris.
Par exemple, voyez, j'ai la distanciation, c'est-à-dire que si j'ai deux personnes qui se mettent ici, là je mettrai personne. Je me dis si demain on me ferme, comment je fais ? Toujours gérer ma boîte et je me dis du jour au lendemain, ben, je peux tout perdre.
Là, qu'est-ce que vous espérez du gouvernement ?
Qu'il laisse les restaurants ouverts. J'entendais prendre la température, les noms, les gens vont pas venir.
En revanche, Pascal est prêt à tenir un carnet où les clients laisseraient leurs coordonnées si jamais il fallait les recontacter en cas de risque de contamination. Mais il y a d'autres propositions faites par les restaurateurs, comme le détaille Didier Chenet, président du groupement des indépendants du secteur.
Ensuite, nous proposons de réduire le nombre de personnes sur une même table de 10 à 8. Et enfin, nous proposons l'encaissement systématique à la table pour éviter qu'il y ait une circulation supplémentaire entre la table et la caisse du restaurant. C'est le dernier SOS, parce que sinon, c'est tout un pan de notre économie qui va donc tomber. Nos restaurants ne se remettront pas d'une deuxième fermeture.
En attendant, Pascal a fait très peu de provisions. Elle avait en effet dû jeter la majeure partie de son stock de nourriture en mars.
Et le Haut Conseil de la Santé publique doit émettre un avis sur les propositions des restaurateurs qu'évoquait Claire Checaglini. Le gouvernement tranchera en fonction de cet avis. Henriette Steinberg, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Secours Populaire. Vous redoutez les conséquences sur l'emploi d'une nouvelle fermeture des bars, fermeture éventuelle à Paris. Est-ce que ça peut amener au final plus de bénéficiaires pour vous ?
Nous redoutons tout type de fermeture qui fait que des personnes dont les emplois sont déjà fragiles voient ces emplois disparaître et n'ont aucune perspective de pouvoir les retrouver. Et nous savons bien, à Paris en particulier, que ceux qui exercent ces métiers sont souvent de façon sur des emplois à durée déterminée, sont rarement sur des contrats à durée déterminée, passent d'un lieu à un autre. Et bien sûr que s'il y a des fermetures, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont sombrer. Pour le Secours Populaire, c'est une préoccupation supplémentaire et pour sa Fédération de Paris au premier chef.
Des précaires qui sombreraient un peu plus dans la précarité. Merci Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours Populaire. On vous retrouve dans quelques minutes. Les personnels soignants de l'assistance publique hôpitaux de Paris pourraient aussi faire les frais de la dégradation de la situation sanitaire. En Ile-de-France, plus d'un tiers des lits en réanimation dédiés aux patients Covid-19 sont occupés. Le seuil critique est donc dépassé. Pour faire face à cette situation qui s'aggrave, la PHP envisage dans une note de service une solution radicale, l'annulation des congés des personnels soignants. Véronique Julia.
À partir du mois d'octobre, les contraintes de continuité de service liées au contexte épidémique sont susceptibles de conduire à annuler une majorité des jours de congé initialement programmés, notamment sur la période des vacances de la Toussaint. Voilà comment débute la note de service. Elle précise néanmoins que si la situation le permet, les jours de congé planifiés pourront être pris normalement. Pour faire passer la pilule, plusieurs mesures sont annoncées en cas d'annulation des vacances. Les journées travaillées sur des journées initialement planifiées en repos seront rémunérées en heures supplémentaires, revalorisées de 50%. Le nombre de jours pouvant être posés sur le compte épargne-temps pour l'année 2020 est doublé et leur monétisation sera facilitée. Par ailleurs, des mesures exceptionnelles seront mises en œuvre si besoin pour financer les gardes d'enfants à domicile pendant les vacances scolaires. La PHP pourra les prendre en charge à hauteur de 50 heures par enfant et certains sites pourront proposer des places supplémentaires en centre de loisirs. C'est ce qu'on appelle une lettre de cadrage. Elle prépare le terrain au cas où, si la montée en charge Covid se confirme. On sait en effet qu'on ne pourra plus compter cette fois sur des renforts venus d'autres régions car l'épidémie est géographiquement plus dispersés qu'au mois de mars. Les personnels déjà épuisés par la première vague pouvaient s'y attendre. Les voilà prévenus.
Véronique Julia. L'offensive d'Emmanuel Macron contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste est loin de faire l'unanimité parmi les associations qui dénoncent une stigmatisation des musulmans SOS racisme. Pour son président, si le problème de la radicalisation se pose dans certains quartiers ghettoisés, c'est avant tout parce que la République les a abandonnés. Dans son discours hier, le chef de l'État a mis l'éducation au cœur de la lutte contre l'islamisme radical. Elle doit prendre exemple sur ce que l'armée a mis en place, selon Jean Jean Bobéro, historien et sociologue.
C'est une proposition un peu iconoclaste qui serait que les enseignants lisent une brochure qui s'appelle « La laïcité militaire » que l'armée a publiée, où l'armée explique comment elle prend le problème de la laïcité. Et jusqu'à présent, alors qu'elle est engagée sur des terrains où elle combat l'islamisme radical, où on ne peut pas dire qu'elle fasse preuve de laxisme, elle a, à mon avis, mieux réussi que l'institution scolaire. L'armée s'est dit qu'il fallait, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit aussi le président, il fallait isoler l'adversaire, il fallait isoler l'islamisme radical. Ça veut dire inclure le grand nombre de gens, qu'ils soient croyants, pas croyants, agnostiques, tout ce que vous voulez. Bon, elle a réussi à faire garder des synagogues par des soldats musulmans, et elle a théorisé ça. Moi je convie les enseignants à faire des groupes de discussion autour de cette brochure pour avoir une conception plus claire de la laïcité. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que beaucoup d'enseignants eux-mêmes ne sont pas au clair sur la laïcité.
Le sociologue et historien Jean Bobéro, il était hier l'invité du journal de 22h de Cécilia Arbona.
Le journal de 22h sur France Culture que vous écoutez. En ce moment, il est 8h11, suite du journal avec les états généraux des festivals qui s'achèvent ce soir à Avignon.
Oui, c'est la première fois qu'un tel événement a lieu. Il a été lancé hier par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a annoncé un coup de pouce supplémentaire pour les manifestations culturelles fragilisées par la crise sanitaire. Le fonds festival de 10 millions d'euros sera prolongé l'an prochain et même allongé de 5 millions d'euros. Anne Lamotte, cette aide est bienvenue pour les festivals qui souffrent et s'interrogent.
À Avignon, les patrons et patronnes de festivals ont beaucoup de questions, pas sûr qu'ils obtiennent toutes les réponses. Comme Jérôme Tréorel, le directeur général des Vieilles Charrues, qui devait avoir lieu en juillet à Carhaix dans le Finistère, avec notamment Céline Dion à l'affiche. 4000 salariés, plus de 7000 bénévoles, 70 000 festivaliers par jour.
C'est un écosystème.
Un écosystème qui pèse lourd dans la région.
En 2011, par exemple, on avait fait une étude, c'était 11 millions de retombées économiques. Et on a refait l'étude l'année dernière et c'est 18 millions aujourd'hui.
18 millions de retombées économiques qui n'existent pas donc sans le festival. Alors certes, le chômage partiel est prolongé jusqu'au 31 décembre, mais après, s'interroge Jérôme Tréorel.
Bon, le 31 décembre, c'est après-demain, hein, donc le chômage partiel s'arrête pour notre secteur d'activité. Il faut envisager tout de suite, entamer des discussions pour qu'il soit prolongé jusqu'à une reprise complète de l'activité.
En face, à Avignon, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, ne dit pas oui. Elle ne dit pas non plus.
Elle l'a dit, hein, elle a dit de toute façon, on verra. On verra en temps voulu, mais on accompagnera s'il faut accompagner. Donc moi, j'ai confiance. J'ai confiance.
Le chômage partiel, mais aussi une multitude d'autres sujets.
Là, vraiment, la clé, c'est quand les spectacles debout pour reprendre.
C'est de ça dont il est question pendant ces deux jours à Avignon, avec l'espoir que les Vieilles Charrues et les 2460 autres festivals de musique annulés entre le mois d'avril et le mois d'août puissent se rattraper l'année prochaine.
Il y a des joies et ces moments de... Voilà, de partage d'émotions entre la rencontre entre un artiste sur scène et un public, on en a besoin.
Un reportage d'Anne Lamotte. Un appel à marcher sur les aéroports lancé pour aujourd'hui en France à l'initiative d'associations écologistes comme Alternatiba ou encore ANV COP21. Elle dénonce les conséquences de l'activité du secteur sur le climat et réclame une reconversion des employés de l'aviation. Des actions sont prévues à Clermont, Lille, Toulouse, mais aussi à Paris. Un rassemblement et une action de désobéissance civile vont se dérouler à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour s'opposer à son projet d'agrandissement. Audrey Boély est membre du collectif citoyen Non au Terminal 4. Elle demande l'abandon pur et simple du projet.
C'est une bombe climatique. C'est probablement le projet le plus climaticide en France aujourd'hui. Donc on a fait le calcul. En fait, ce projet émettrait 15 millions de tonnes équivalent CO2 supplémentaires. C'est l'équivalent du chauffage de 24 millions de Français. Donc quand on demande aux citoyens de faire des efforts, de prendre le vélo, de réduire de 1 degré la température dans leur logement, à côté de ça, le gouvernement soutient un projet qui ferait exploser nos émissions de CO2. Et donc, ça ne permettrait pas de tenir nos engagements des accords de Paris. Le secteur aérien, c'est un secteur qui représente bien l'injustice climatique puisque, par exemple, en France, 50% des vols sont réalisés par seulement 2% des gens. C'est au bénéfice d'une minorité la plus aisée et, par contre, les conséquences du changement climatique, elles sont les plus ressenties par les populations les plus pauvres.
Audrey Boély du collectif citoyen Non au Terminal 4 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, elle répondait C'est à Arnaud Rozac. 9 personnes sont toujours portées disparues suite aux intempéries dans les Alpes-Maritimes. 12 000 restent ce matin privées d'électricité. Les Alpes-Maritimes qui sont en vigilance orange pour crues et pluie inondation, risque de pluie inondation seulement dans les Côtes d'Armor. De crues dans les Alpes de Haute-Provence, la Corse du Sud est-elle en vigilance orange pour vagues, submersion. C'est un temps maussade qui domine dans une majeure partie du pays avec des températures de 5 à 11 degrés jusqu'à 12 et 16 degrés sur les rivages du sud et de la Corse.